Le nid. Le petit garçon se réveilla aux premières heures de l'aube qui pénétrait à travers le volet mal rabattu. Il se redressa sur un coude et inspecta la pénombre. Autour de lui, toute la famille dormait, couchée sur des grabats. Près de la cheminée, aux tisons étouffés sous la cendre, le père ronflait, tourné vers la muraille. La mère, étendue sur le côté, semblait se reposer à peine un instant entre deux travaux. Dans les autres coins, les frères sommeillaient, les plus jeunes dans des paniers, les aînés sur une jonchée de paille. Seule, une poule s'agitait sous la table et grattait le sol à la recherche d'un grain de blé qu'elle n'avait aucune chance de trouver. Dans la maison de Brichot, le bûcheron, un grain de blé était un grain de blé. On se serait baissé trois fois pour le ramasser plutôt que de le laisser perdre. Aucun bruit ne venait du dehors. Les chaumières étaient encore fermées à cette heure matinale. L'enfant quitta sa paillasse et traversa la salle sur la pointe des pieds. Le regard fixé sur ses parents, dont il guettait le moindre signe de réveil, il retenait son souffle pour se faire plus silencieux. Il allait sortir. Il avait déjà ouvert la vieille porte de bois noirci quand une voix l'appela de l'intérieur. « Martin !»«
Oui, mère. »«
N'y va pas. »«
Où ?»
La femme s'était levée. Elle rejoignit son fils, toute maigre dans sa camisole de toile bise qui tombait sur ses pieds nus.
« Tu le sais bien, ne parlons pas de cela. On pourrait nous entendre et nous en aurions du malheur, » dit-elle à voix basse.
« Mais tais-toi, c'est interdit au manant. Pense à ton père, Martin, à tes frères. Notre Seigneur est bon, que Dieu l'ait en sa sainte garde, mais cela, il ne le pardonnerait pas.
« Mère, je vais les voir simplement, rien que les voir. »
Martin sentait bien qu'il n'était pas sûr de tenir sa promesse. Il partit en courant. Sa mère le regarda s'éloigner, puis elle rentra et ne se recoucha pas. À quoi bon, puisque le sommeil l'avait fui?
Pourquoi s'est-il mis une telle idée en tête, dans sa mauvaise tête qui ne veut rien comprendre?
En même temps, elle se fit la remarque que Martin était, de tous ses fils, le plus doux, le plus docile, celui qui lui donnait le moins de mal. Sûr que nous en aurons du malheur. Son mari se réveillait, elle lui cacha ses craintes.
« Qu'as-tu, femme ? » a grommelé de bon matin.
« C'est cette poule qui vient voler mon grain. Si je ne m'étais pas levée, elle l'aurait bien tout mangé. » Martin, pendant ce temps, dévalait le coteau. Il ne ralentit sa course que lorsqu'il fut en terrain plat. Une belle journée commençait qui mûrirait les moissons du Languedoc, qui gonflerait les grappes pour la plus grande richesse du chevalier Guilhem Arnald de Soupex. Mais l'enfant marchait d'un bon pas et ne se préoccupait guère des récoltes. Il allait vers l'autre colline, celle qui portait les forêts. À la lisière de ces forêts, il hésita. Il jeta un regard autour de lui, écouta la rumeur des champs, le long cri d'un jet quelque part dans les arbres. C'était là des bruits naturels qui ne l'inquiétèrent pas. Aussi pénétra-t-il sous les chênes. La forêt sortait de la nuit avec une joie paisible. Les oiseaux s'ébrouaient avant de chanter le matin retrouvé. Dans les taillis et sur les mousses, tout un peuple de petits animaux se signalait par des frôlements, des herbes froissées, des basses branches un moment agitées, qui se refermaient ensuite sur une queue blanche ou un plumage gris. Martin ne partageait pas cette allégresse. Il avançait, l'oreille aux aguets, le cœur battant de crainte et aussi d'excitation. Il savait son chemin. La corne de bois à traverser et de nouveau la lisière avec une grande flaque d'eau dormante au creux de l'argile. Là s'élevait un pin qu'il avait repéré 8 jours auparavant. Sur une branche presque inaccessible, un ancien nid de pie était accroché. Martin, au pied de l'arbre, se dit que s'il hésitait maintenant, il n'oserait plus jamais courir un tel risque. Un dernier regard, l'oreille encore une fois tendue, rien. Le vent du matin dans les feuilles, personne. Le sort était jeté, tant pis, l'aventure de Martin commençait. Il saisit le tronc à plein bras, à pleines jambes, et se hissa en s'écorchant aux écorces couleur de sang séché. La résine engluait ses doigts, ses pieds nus, comme pour le retenir en un piège, mais il montait toujours. Une branche, enfin, une autre. La longue escalade vers le sommet devenait presque aisée. Et puis les branches se firent plus minces. Elles ployèrent sous la charge, pourtant légère, du petit gardeur d'oie décidé à aller jusqu'au bout. Martin arriva au nid. Il y fut reçu par un battement d'ailes désordonné, deux grands becs redoutables qui s'ouvrirent comme pour l'engloutir. Un des oiseaux s'élança dans le vide, essaya de voler, heurta une branche, boula, battit des ailes encore et atterrit enfin à une vingtaine de pas de l'arbre. Martin le suivit des yeux, de l'angoisse plein le cœur. « Il va se tuer. Je vais le perdre dans le taillis. » Il en oublia l'autre oiseau. Il dégringola le long du tronc presque aussi vite que le fuyard. Avec une témérité folle, il se laissa tomber dans l'herbe du haut de la dernière fourche. Ses pieds s'étaient endurcis le long des chemins. Ses chevilles, à tant sauté les fossés, avaient acquis une solidité qui lui permit d'arriver à bon port. Aussitôt, il poursuivit la boule de plumes gris ardoise qui tentait de s'échapper. C'était un faucon obereau d'une vingtaine de jours. L'oiseau tout de suite engagea la lutte. Il se mit sur le dos, découvrant ainsi des culottes rousses d'où surgissaient des pattes redoutablement armées de griffes recourbées. Martin comprit qu'il fallait relever le défi. Il ôta son surcot et le roula autour de sa main. Le faucon mit ce temps à profit pour essayer de s'enfuir encore au milieu des herbes qui s'agrippaient à ses plumes. L'enfant le rejoignit au moment où il allait disparaître dans un buisson. De nouveau l'oiseau fit face, couché sur le dos, les serres crispées, le bec entrouvert par une sorte de halètement. Sans quitter des yeux l'œil très perçant qui le fixait avec colère, Martin se jeta sur la bête. Il sentit, à travers l'étoffe, le frémissement du corps qui se débattait. Une griffe, jaillie de la toile, vint érafler son poignet sans qu'il lâchât prise. « Doucement, mon beau, mon mignon, doucement » chanta-t-il à mi-voix. L'oiseau ne se défendait plus, il était vaincu. Quelques plumes restées sur l'herbe attestaient le combat. Il fallait les faire disparaître pour ne pas éveiller les soupçons du fauconnier. Martin les glissa sous une pierre. Là-haut, à la cime du pin, les parents revenus volaient autour du nid. Leurs ailes en forme de faux se détachaient sur le bleu du ciel. Et ils criaient si fort qu'on devait les entendre du village. « Ne vont-ils pas se taire ?» s'alarmait Martin. Tout était commencé maintenant. Il ne pouvait plus revenir en arrière. « Alors qu'ils se taisent ! Qu'ils se taisent !» Il se hâta de fuir la colère des rapaces. Il serra sous son bras l'oiseau prisonnier de son surcot et s'éloigna à grandes enjambées. Mais en même temps, il aperçut sur la colline devant lui la masse redoutable du château seigneurial. Et c'était une bien grande menace. Les murailles éclaboussées par le soleil levant lui parurent plus oppressives encore. Elles écrasaient de tout leur poids le village aux chaumines éparpillées. Martin repensa à sa mère qui l'avait mise en garde. Elle avait su l'interroger, deviner à des riens cette grande envie qu'il avait, lui, pauvre petit paysan, de posséder un oiseau qui lui appartiendrait, un oiseau magnifique, qui ne tuerait que pour vivre et qui ne se poserait sur le poing que pour obéir à l'amitié. « Tu sais bien que c'est un privilège réservé au Seigneur, Martin, et que tu n'as pas le droit de dénicher ces oiseaux. » Martin avait passé outre. Il désirait tant avoir un compagnon de jeu qui ne serait qu'à lui. Et s'il avait choisi un faucon au lieu d'une corneille ou d'une tourterelle, c'était pour le plaisir de dompter un animal difficile, un oiseau de proie. Le Seigneur en avait bien assez pour ses chasses. Au pied de la colline, dans une ruine que personne ne visitait, l'enfant cacherait son faucon. Il lui construirait une cage. Nul ne le saurait jamais. Jamais. Un nuage voila le soleil. Une ombre courut sur la campagne, grimpa au flanc de la colline. Les lourdes murailles devinrent presque noires. Le sire Guilhem, au même instant, se doutait-il qu'un de ses serfs avait transgressé sa loi ?